vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 153. Margot Estner, tueuse, sans en avoir l'air. Alors, chers amis, bonjour, accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas rigoler. On va tous risquer d'être trucidés par ce que j'accueille dans notre vénérable et gentillette émission. Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïca Strasbourg. J'accueille quelqu'un qui a pas mal de cadavres à son actif. Elle vient de Haguenau et ça commence tout de suite par un océan brillant et écarlate où gît sur le sol une femme. Et là, ce n'est que la quatrième ligne du premier paragraphe. Et à la page 13, on récolte un puzzle géant de viscères éparpillés sur le sol gris et froid. Ensuite, on rencontre le salopard du massacre qui pleure de bonheur. Bon, si vous n'avez pas l'habitude du sang, de la fureur et du bruit, et des malheurs et de Shakespeare, vous avez raison d'écouter notre émission, vous l'avez bien connue, qui a pour ambition de surprendre par sa fascination pour la banalité des petits riens. Oui, accrochez-vous, l'introduction aujourd'hui est étrange et pénétrante. Et ça va être long, parce que cela porte un joli nom, la théorie du mal. Alors, mal avec un M majuscule, mais sans E, ni accent circonflexe. C'est la couverture d'un livre, fond noir, avec un énorme bandeau rouge, annonçant « Grand gagnant 2025, prix du thriller ». Et on comprend donc que c'est un polar, avec mention « Télé-loisirs à côté », bon, alors ça, c'est un peu de publicité. Et en bas, en grosses lettres, Franck Tilliez, qui est le président du prix, mais qui, surtout, est une énorme locomotive commerciale du roman policier. Ça n'empêche pas qu'on peut adorer, mais c'est le quatrième auteur qui vend le plus de livres en France. Des tirages proches parfois d'un million, bon, le plus souvent 250 000, mais enfin c'est quand même énorme. Et il a 25 romans au compteur. Et pour être certain que l'acheteur, et on espère le futur lecteur, soit convaincu d'avoir en main un chef-d'œuvre, donc la théorie du mal, en haut du livre, une citation puissant, complexe, haletant. Alors, ce n'est pas du café, non, c'est une critique. Alors, devinez qui a fait cette critique. Franck Tilliez lui-même. Et maintenant, je vais vous décrire la couverture. Un fond noir, bien entendu, pour faire peur, et une corde rouge tendu du haut en bas, alors c'est la couleur du sang, et qui au milieu ne tient plus que par un brin. Ça dégouline d'hémoglobine et catastrophe, ça va craquer. Quel suspense! Et il y a aussi, en lettres blanches, écrit en tout petit, mais vraiment tout petit, Margot Estner. Bonjour Margot Estner.
Bonjour.
Alors, c'est vous qui avez écrit ce thriller? Alors, thriller, ça rime avec Estner, et on va faire connaissance, vous êtes agnovienne. Dites-moi, c'est génial le marketing de ce bouquin dont vous êtes l'auteur?
Eh ben, en tout cas, je n'ai pas à m'en plaindre, parce que ça marche assez bien.
Oui, parce que d'habitude, quand on fait un livre, et là, on va le dire, c'est votre premier roman.
Tout à fait.
On tire à 200, 500 exemplaires, et vous, 3000 tout de suite.
3000 tout de suite, et ça va bien... Ça fonctionne bien.
Et vous avez des rééditions déjà, en moins d'un an. Mais alors, comme c'est votre premier roman, vous avez accepté que sur la couverture, votre nom soit tout petit comme ça?
Ça ne m'a pas choqué, parce que le texte, je l'offre à mes lecteurs, ce n'est pas mon nom que je donne.
Oui, bien sûr, mais enfin quand même...
Il est là, c'est le plus important.
Il y a toujours un petit égo quand on écrit.
Évidemment, c'est pour ça que je n'ai pas pris de nom de plume. Hein.
Oui, vous auriez pu vous appeler...
J'aurais pu, je n'ai pas un nom particulièrement vendeur, mais ça me plaisait bien d'avoir mon nom dessus quand même.
Ah non, votre nom, c'est bien Margot. Oui. Mais alors justement, Est-ce que vous auriez quand même cogité un pseudo
Non, ça m'a pas franchement effleuré, déjà parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui me venait spontanément. Et puis, il y a cette fierté quand même de pouvoir présenter le livre avec son propre nom, non? C'est chouette.
Oui, oui, je suis absolument d'accord. Voilà. Ambroise Perrin, c'est moi, je fais aussi des livres.
Enchanté.
Enchanté. Alors, thriller, Estner, et ça rime avec infirmière.
Tout à fait. Oui. Comme quoi, tout était lié.
Bon, alors, racontez-moi un petit peu, vous êtes infirmière. Et entre deux malades qui dégoulinent d'hémoglobine...
Je trucide.
Ah, vous trucidez. Voilà, voilà. Et vous écrivez.
J'écris, mais c'est assez récent en réalité. Hein.
Oui.
Je suis infirmière depuis bien plus longtemps qu'auteur. Ça m'est venu il y a 2 ans, sur une impulsion, un truc un peu inexpliqué. Les mots sont arrivés un peu seuls. Et un an plus tard, naissait la théorie du mal, qui n'avait vocation à la base d'être offert qu'à mes proches. Et puis, il y a eu cet appel à texte, ce manuscrit qui pouvait être proposé au concours du thriller Télé-Loisirs, présidé par Franck Tillier.
Voilà, vous avez participé à un concours.
Tout à fait.
Parce que vous aviez votre bouquin sous la main.
Je l'avais, c'était là, la deadline arrivait quelques heures après, il fallait envoyer, cliquer et c'était parti.
Et vous êtes la meilleure, enfin la première.
Ou en tout cas, celle qui a été choisie.
Voilà.
Sur quels critères, je ne sais pas, mais celle qui a été choisie.
C'est une histoire formidable.
Oui, c'est
alors,
une belle histoire.
Alors, ce qui est encore plus formidable, d'habitude, les gens qui écrivent leurs livres, ils disent « Moi, j'écris depuis l'âge de 6 ans, j'ai fait des poèmes, j'aime deux choses, toi et la rose, la rose pour un jour, et toi pour toujours, à la fête des mères. » Et puis, non, vous, pas du tout, non.
Bah, alors, j'étais une grande lectrice à l'adolescence, je lisais beaucoup de fantastique, j'ai commencé le policier comme beaucoup, avec Agatha Christie, avec Stephen King, et j'avais tenté de coucher quelques mots sur le papier dans le genre fantastique, justement, et j'avais trouvé mon style absolument détestable, et je m'étais dit que j'aimerais pas du tout lire quelqu'un qui écrirait comme ça, donc ça s'était arrêté là, en fait.
Voilà. Et maintenant, votre style est quand même un petit peu différent. Il y a beaucoup de dialogues, il y a des...
Il a grandi avec moi, en fait. Hein.
Oui.
Il a grandi avec moi, avec ce que j'aime lire, avec ce que j'aime regarder. J'aime bien la musique des mots. J'aime bien quand ça chante un petit peu.
Oui, ça, c'est formidable. Alors, je vous citerai Flaubert, hein, les assonances et tout. Mais moi, j'ai essayé, vous avez vu, laborieusement, hein, dans mon introduction. Mais quand même, vous voulez dire comme ça que... Tout ce que vous écrivez, c'est inspiré par d'autres lectures par,
Non, pas nécessairement.
Vous êtes une éponge Non.
Si, beaucoup. Et puis en ça, le métier de soignant, le quotidien de soignant, il aide autant qu'il dessert. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut trouver une soupape quand même pour extérioriser tout ce qu'on entend toute la journée. Pas tant les histoires vraies qui pourraient servir de matière, mais plutôt la matière humaine qu'on nous offre, et qui a besoin d'être digérée lentement.
Oui. C'est parfois dur. Hein. Enfin, on a applaudi pendant le Covid les infirmières.
Pas longtemps, quand même.
Non, pas longtemps, mais quand même un petit peu. Oui. Ben alors, racontez-moi l'histoire de la théorie du mal. Parce qu'on a l'impression que c'est un bouquin philosophique et puis c'est un polar.
Non, c'est pas du tout un essai. J'ai essayé quelque chose, mais c'est pas un essai.
Oui, mais alors c'est bien, c'est une fausse piste, le titre.
Exactement. La théorie du mal, vous le pitchez en quelques mots.
Pitcher, ça veut dire quoi, ça, pitcher?
Ouais, faire un résumé rapide.
Non, mais je sais, on essaie de...
On fait un anglicisme.
Voilà.
La théorie du mal commence avec Victoire, qui est ma protagoniste, qui vit une journée, somme toute, comme plein d'autres, qu'elle finit en forêt, et là, elle y est sauvagement agressée. Elle est laissée pour morte, et quand elle se réveille à l'hôpital, elle est amnésique et couverte de morsures humaines. Et c'est le début d'une enquête qui, en fait, a déjà commencé, puisque ça fait quelques mois que mon duo d'enquêteurs se casse les dents sur les cadavres de femmes qui sont laissées mutilées de morsures humaines. Et donc, l'enjeu, ça va être de retrouver pour Victoire la mémoire, puisqu'elle est la clé d'un puzzle un peu complexe.
Voilà. Mais si vous en rêvez la nuit, c'est un peu compliqué. Vous êtes parfois de service la nuit?
Non. J'ai la chance d'avoir bifurqué sur un service qui ne t'ouvre que 2 jours. Donc, ça me laisse un peu de temps pour mon sommeil et mon imagination.
D'accord. Mais quand même, c'est un petit peu tordu, non? Non, mais parce qu'il y a toujours un télescopage entre votre travail et puis le scénario de vos chapitres.
Alors... Un télescopage, je ne sais pas, mais en tout cas, il se nourrit de l'émotionnel. Et quoi de plus brut en termes d'émotion que de voir toute la journée des gens qui sont dans des situations d'angoisse, de peur, de fragilité. Cette matière-là, elle nous est offerte. Et à nous ensuite de savoir comment on a envie d'en faire quelque chose. Quoi.
Alors, vous dites « nous ». Nous, infirmières.
Nous, les soignantes. Je fais un global.
Et non pas le grand chirurgien qui découpe, qui est lui les mains dans le sang toute la journée.
Qui a certainement ses propres conflits intérieurs à gérer. Hein,
oui.
Et qui ne sont pas les miens.
Mais en même temps, les patients ne leur parlent pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Les chirurgiens, ils passent, ils regardent et la courbe des températures comme au cinéma et puis ils repartent. Et puis c'est vous, l'infirmière ou alors la femme de ménage hein, qui est là et qui devient la confidente du malade. Et puis c'est là que vous prenez un petit peu des idées
Des idées, je ne sais pas, mais en tout cas, le médecin, le chirurgien, ils ont ça de particulier qu'ils interviennent dans des moments qui sont très ponctuels, des moments qui sont clés.
Critiques,
souvent. L'infirmière, l'aide-soignante, l'aide médico-psychologique, toutes celles qui sont au chevet du malade au quotidien, ce sont justement des interlocuteurs du quotidien. Elles ont cette disponibilité qui est en fait un déversoir à toutes ces émotions négatives, souvent positives parfois, qu'ont les patients.
Oui, et alors, quand même, vous êtes disponible. Parce que les patients, on sait que les 6 jours à l'hôpital sont de moins en moins longs.
Et moi, je fais de l'ambulatoire, moi, qui sont là qu'une journée.
Ah oui.
Mmh.
Ah oui, donc au bout d'une journée, on n'a quand même pas le temps de s'ennuyer, si.
De s'ennuyer, non, mais de discuter un petit peu quand même.
Oui,
on
quand
échange.
Même.
Les gens sont, je ne sais pas si c'est la blouse, si c'est l'uniforme, mais en tout cas, il y a une facilité quand même à se confier aux soignants.
C'est en même temps une déférence, un respect que les soignés ont pour les soignants.
En tout cas, une confiance qu'on nous porte,
oui.
Je pense.
Voilà. Alors j'imagine quelque chose, bon, j'écris pas de roman policier, mais votre soignant, mais vous le savez pas, c'est un grand médecin, machin et tout, puis il a appris... Par hasard, par accident, enfin, comme c'est souvent le cas, paf, il a un super cancer que, bien sûr, il n'avait pas décelé avant. Il va se confier. Alors, est-ce que vous connaissez toujours le métier, enfin, les occupations, ce que font les gens, ou est-ce qu'ils vous le disent spontanément?
Les patients?
Oui.
C'est-à-dire qu'on est au détour d'un soin, on est quand même amené à discuter un petit peu, quoi. On ne va pas parler que de la plaie ouverte qu'on a devant les yeux ou de la mesure de la tension, non. On échange un peu, on essaie de faire... de faire diversion un peu sur le cerveau qui est angoissé. Et puis ça ouvre le champ de plein de discussions possibles, la famille, le travail, les amis, l'environnement. Enfin.
Oui. Alors là, mon grand bonhomme très connu, qui a appris soudainement qu'il avait un cancer avec des plaies, et, je ne sais pas, les trucs ouverts dans le ventre et tout le bazar. Et vous, c'est pareil, vous avez appris d'un seul coup que vous aviez envie d'écrire.
C'est exactement ça, une plaie ouverte.
C'était une plaie,
qu'il fallait refermer.
sauf que c'était une plaie qui laissait couler de l'encre.
Ouais, et qui m'a permis de noircir des pages. Alors, au sens figuré, puisqu'en fait, mon roman, je l'ai écrit sur mon téléphone.
Oh
bon,
au
bah,
secours.
Au malheur.
Vous pouvez partir. non, pas au malheur, non, mais...
C'était, pour être tout à fait honnête, un soir, j'ai eu besoin de poser des mots. Je ne savais pas encore lesquels. J'ai téléchargé une application de traitement de texte. Je me suis installée dans mon lit et j'ai tapé. Et au lieu du « je », ce qui est arrivé, c'est Victoire, ma protagoniste. Et un soir après l'autre, assise dans mon lit, j'ai continué à lui inventer une histoire sans savoir où ça allait me mener.
Mais c'est pas l'intelligence artificielle qui a écrit votre
bouquin.
Oula,
non, surtout pas. Vous les repérez vite, hein, les textes à l'intelligence artificielle.
Oui. Parce que vous avez essayé ?
Non, alors je trouve que c'est un outil qui peut être utilisé comme à l'époque on aurait pu avoir un dictionnaire de synonymes ou un Becherel sous la main.
Oui.
Mais au-delà de ça, il faut quand même tout vérifier et tout sourcer parce qu'ils ont quand même tendance à dire un peu des âneries, quoi.
Quel joli mot, Margot Esner, le Becherel. Voilà. Alors, mais
je l'ai connu aussi. Hein,
ah ben oui, non, c'est bien,
si
vous êtes toute jeune, mais quand même. Oui, non. C'est le livre de chevet que... On me piquait parfois et que mon papa m'offrait tous les ans pour mon anniversaire. C'était devenu un rituel, le Becherel, parce que c'est vrai, on hésite toujours sur les conjugaisons. Chers auditeurs de Radio Judaïque à Strasbourg, achetez-vous le Becherel. Vous allez voir, vous allez remercier Margot Esner de cette
Pourtant, je ne suis pas une experte en conjugaison. Je fais appel au talent de ma mère qui était... et mes parents étaient tous les deux enseignants. Donc,
oui, alors le plus que parfait du subjonctif.
Ah, et voilà, c'est bon, il gère.
Que juste été ici et je... Voilà, d'accord, très bien. Et tout, vous n'écrivez pas à la main vous n'avez pas appris à écrire
je
avec
prends des notes.
Une plume sergent-major trempée dans l'encre à l'école.
Non, alors celle-ci, je ne l'ai pas connue. Par contre, j'avais les cartouches, mais pas l'encrier, quand même.
Quand même, oui.
Non, à la main, je prends des notes. J'ai un petit calepin qui me suit un peu partout et que je peux que je peux utiliser au besoin, mais dans lequel je griffonne des nouvelles idées qui me font partir le roman totalement à l'inverse de ce que j'avais imaginé à la base. Mais,
Alors, est-ce que vous aviez fait un plan sur votre téléphone avant d'écrire ? Non.
Pas du tout. Honnêtement, avant les trois quarts du roman, je ne savais pas comment ça allait se finir.
Vous ne saviez pas qui était l'assassin ?
Alors ça, si, quand même, mais je ne savais pas du tout ce qu'il allait devenir. Victoire, ma protagoniste, il lui est tout arrivé. Tout, absolument tout. Elle a tout vécu, elle a tout... Puis il a fallu choisir un chemin, à un moment donné, celui qui me semblait le plus évident. Mais...
Oui, puis au fur et à mesure qu'on lit et qu'on comprend un petit peu votre dispersion, si je peux, c'est un compliment, on se dit, alors justement, c'est pour ça que j'ai posé la question du plan, ça part dans tous les sens, et c'est pas du tout réaliste pour un truc qui dégouline de sang. Hein. Parce que le type qui mord, on peut raconter un peu, qui mord les cadavres là, pour reprendre son pied... C'est quand même assez tordu. Et en même temps, on y croit.
Alors, il ne mord pas vraiment les cadavres. Hein. Il faudrait...
Non, il le fait mordre par quelqu'un d'autre, oui. La chose, vous dites.
La bête.
La bête, oui. La bête humaine, mais ça, c'est autre chose.
C'est pas la même.
Non, c'est pas la même. Oui, c'est quand même...
Alors, de toute façon, on ne demande pas à un roman, à un thriller, d'être réaliste au point de pouvoir donner des idées aux voisins, mais... surtout pas. Mais il y a quand même une recherche de crédibilité dans ce qui est dit sur les techniques scientifiques, l'appareil judiciaire. On peut pas raconter n'importe quoi non plus. De toute façon, on se fait tomber dessus par les lecteurs qui en savent plus que vous. Donc, à un moment donné, il faut quand même un peu se renseigner.
Ah oui, alors ça, c'est intéressant. Vous avez eu beaucoup de retours de lecteurs. Alors d'abord, est-ce que ce sont vos patients, vos malades? Ils savent dire « Ah, mais vous, là, je vous ai vu, parce qu'il y a eu un article dans le journal avec votre photo et tout. Ah, c'est vous qui écrivez les romans ?»
C'est arrivé.
Ça doit être très sympa, ça.
Bah, c'est chouette, parce que ça prolonge le soin au-delà de ce moment, de ce moment très concret qu'on a passé ensemble. Quoi. Ça prolonge la relation, et puis ça donne encore un peu de matière émotionnelle, humaine, pour mon moulin.
Et donc, ça vous donne envie de faire un tome 2?
Alors, pas un tome 2 de La théorie du mal, mais en tout cas, non. Ça me donne envie de poursuivre ce que je suis en train d'écrire.
D'écrire autre chose. Ouais. Voilà, c'est ça.
C'est en cours.
Voilà. Et ce sera aussi dégoulinant? Ou vous restez dans le polar ou...
Je reste dans le thriller, parce que le polar a quand même ses codes de l'enquête policière.
Alors, quelle est la différence entre un thriller ou un thriller, comment vous dites?
Thriller, oui.
On prononce le H. Enfin, thriller.
Oui, on l'a fait en anglais.
Et un polar.
C'est beaucoup moins beau.
C'est beaucoup moins joli. Voilà. C'est la différence
ça va être
entre les deux.
Vraiment l'histoire du fil de la narration qui suit l'enquête. C'est-à-dire que moi, dans mon thriller, il y a ce duo d'enquêteurs qui est là en toile de fond, un peu pour marquer le temps qui passe. Mais ils ne sont pas du tout au centre de l'enquête. Donc, les personnages ne sont pas plus développés que ça. Ils courent un peu après tous les indices qu'on leur donne, les pauvres. Alors que dans un polar, vous allez vraiment suivre de façon exclusive, exclusive principale en tout cas, vos enquêteurs et le fil de leur enquête.
Mais quand même, votre livre, il est structuré, il y a des chapitres qui ont une certaine longueur. C'est après coup que ça a été...
Oui, alors ce que j'ai fait, c'est que pendant 6 mois, dans mon lit, j'ai fait mon petit bins, là. J'ai écrit un peu...
Longtemps, je me suis couché pour écrire, pas de bonne heure.
Exactement. Je me réfugiais là quand la maison dormait, et puis c'était parti. Donc ça m'a pris 6 mois, et ensuite, il a fallu... j'ai tout imprimé. Et j'ai regardé un peu tout ce qui ne collait pas, tout ce qui avait évolué, tout ce qu'il fallait préciser, éclaircir, enlever, couper. Et ça m'a pris 6 mois de plus.
Ah oui.
Voilà.
Donc le découpage, le montage, voilà. Mais ça, tout seul, en solo, sans...
Oui, chez moi.
Voilà.
Oui,
sans avoir... vous avez cherché peut-être... Je ne sais pas, en lisant d'autres bouquins. Est-ce que vous connaissiez Franck Tillez avant?
Oui, parce que c'est un peu lui qui m'a fait entrer dans le thriller à la française, quoi, quand j'avais une vingtaine d'années, je dirais.
Là, vous en avez 22 maintenant.
Exactement, à peu près. Le temps passe si vite. oui, c'est avec lui, Chatham, Gibel, enfin tous ces noms à la française qui ont marqué mon entrée dans ce genre-là. Mais c'était... C'est une drôle de coïncidence que je mette un point final à cette relecture-réécriture et que 3 jours après, montre en main, j'ai cette notification.
Ah oui, mais il n'y a pas de hasard. Non, non.
Certainement.
C'est bien.
Certainement.
Oui, c'est ça. C'est parce qu'on fait ce que... Voilà, et tout. Mmh. Mais est-ce que vous lisez d'autres choses aussi? Alors justement, Breton, Najda, sur le hasard...
Non, très peu. Et puis d'autant plus que je ne lis vraiment plus grand-chose depuis que j'ai une vie bien
trop remplie. Parce que maintenant, vous écrivez, donc vous avez plus le temps de...
Et j'ai très peur aussi de m'imprimer de ce qu'écrivent les autres.
Ah oui. Lisez quand même Madame Bovary. Parce que...
Je suis sûre de ne pas trop m'en imprégner.
À la fin, elle prend de l'arsenic, mais voilà.
Non, mais je craignais vraiment. C'était un vrai questionnement pendant l'écriture de la théorie du mal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les idées me venaient tellement naturellement que j'en suis venue à la question de me demander si j'avais pas lu ça quelque part déjà. J'avais déjà eu une boulimie de thriller, de polar.
La peur du plagiat.
Bah oui, mais clairement, j'ai fait des recherches sur le net longtemps pour être sûr que cette idée-là, en fait, c'est pas quelque chose que... Parce que quand vous lisez énormément, quand vous avez des boulimies de lecture, comme ça, vous avalez 4-5 livres par semaine, j'avais des périodes de ma vie comme ça, vous ne souvenez plus de rien en réalité. Vous ne souvenez plus ni des titres, ni des noms.
Oui, mais je vous ai posé la question, êtes-vous une éponge, vous avez opiné du bonnet. Donc, oui, effectivement, ça ressort. Mais alors, Margot Estner, est-ce que finalement, ce livre, avec tout ce que vous aviez lu avant et tout, ce n'est pas une sorte de confident? Je ne dis pas que vous avez envie d'assassiner des gens. Hein. Non, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose où finalement, une sorte de thérapie alors?
Ah, si, clairement.
Ah oui.
Ah, si, complètement. Hein. Moi, j'ai trouvé un bien-être dans l'écriture que je ne soupçonnais pas. Et je conseille à n'importe quelle personne qui s'en sent pas capable d'essayer quand même. Hein.
Ah oui.
Parce que moi, j'étais pas du tout au fait.
Alors,
que c'était possible.
Alors, à la place du Doliprane, prenez...
Prenez 3 pages le soir avant de vous coucher.
Voilà.
Ouais, non, vraiment, y a quelque chose d'extrêmement thérapeutique. Ça peut paraître bateau, hein, le côté exutoire comme ça chez l'artiste qui a besoin de sa page blanche ou de sa toile blanche pour exprimer des émotions. Oui. Mais comment vous voulez rendre une œuvre vivante et réaliste si vous n'y mettez pas vraiment de vous, en réalité?
Oui, voilà. Oui. Ben, on peut aussi être détaché. Enfin, quand on lit les auteurs, la correspondance de Flaubert, j'y reviens, c'est formidable comme il raconte son travail sur la génétique des textes, comment il cherche un mot, comment... Il dit « ce n'est pas moi », il n'a jamais dit « Madame Bovary, c'est moi », c'est au contraire. Ça, c'est un truc qu'on a inventé comme ça, 30 ans plus tard. Mais,
est-ce que pour autant, on peut dissocier complètement? Je ne sais pas.
Je sais pas, il y a des grands écrivains, entre guillemets, qui passent allègrement d'un style à l'autre, qui changent, ou même qui trompent leur monde. Ajar, hein, Gary, formidable, c'est le même bonhomme, et il a écrit deux choses totalement différentes. C'est-à-dire que, mais alors c'est peut-être un métier à ce moment-là, c'est autre chose.
Je pense qu'il faut un certain entraînement quand même. Hein. Oui. Je suis un bébé dans ce milieu-là. J'apprends.
Vous êtes un bébé.
J'en suis au stade du quatre pattes là.
Oui. Non, mais c'est formidable, c'est assez drôle. Vous pouvez nous donner quelques mots sur le suivant, le bouquin suivant?
Alors on reste dans l'univers du thriller, mais dans une dimension qui est vraiment très très différente. De toute façon, il n'y aura pas du tout d'enquête.
Non. Est-ce qu'il y aura de la tarte au fromage dedans? Parce que c'est notre truc là,
tarte
dans l'émission.
Tarte au fromage, non, mais il est question d'une tartelette aux fraises, si jamais.
Ah, ben vous allez pouvoir revenir alors.
On parlera de la tartelette aux fraises à ce moment-là.
Et vous avez une bonne recette?
Ah non, je suis désolée. Alors moi, je ne suis pas de recette. Je cuisine comme j'écris, c'est-à-dire que je fais n'importe quoi.
Ah bah c'est très
je
bien.
Je jette tout dans un bol et je me dis là, ça a
vous
l'air
mélangez,
pas mal.
Oui,
exactement.
C'est bien. Ben écoutez, Margot Estner, c'est formidable, on viendra manger chez vous. C'était l'épisode numéro 153 avec Margot Estner de notre sanglante émission. Vous l'avez bien connue sur Radio Judaïka Strasbourg. Il y a toujours la petite dernière question. Margot Estner, vous êtes donc une tueuse, sans en avoir l'air. Bon, ça, c'était pour avoir le titre et la rime. Est-ce que vos patients, sur leur lit de misère, ils vous demandent des dédicaces?
Alors, pas tout de suite. Hein. Certains qui apprennent ensuite qu'il y a eu ce roman qui est sorti, qui reviennent. Alors, c'est toujours rigolo parce que je les vois un jour et puis deux semaines après, ils reviennent en disant « Au fait, est-ce que vous voulez pas signer le livre ?» c'est chouette parce que le moment est un autre moment que le soin. On garde la posture de soignant au moment où on nous demande d'être un soignant.
Avec une éthique et tout. Voilà.
Et puis ensuite, il y a cette prolongation du lien qui se fait. C'est toujours très, très touchant, moi, je trouve.
Ça vous fait rire? Ça vous fait plaisir?
Ça m'émeut beaucoup.
Ah oui. Ah. Alors, un thriller qui va émouvoir. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. La semaine prochaine, je vais faire une drôle d'expérience. Je vais être enfermé dans une bibliothèque où il n'y aura que des femmes. La bibliothèque des femmes du Conseil de l'Europe avec Ina Dimova. À la technique, Thomas Marinelli. Et mon nom est Ambroise Perrin.